souvent de la magie de Noël. Et je pense que là, ce matin, la magie se sera bien faite de démythologiser. Un peu de calme sur la magie de Noël avec ces textes du prophète Ésaïe qui sont intéressants à double titre. Tout d'abord, il est intéressant de constater que ce dernier passage biblique que j'ai lu est utilisé pour le développement de l'idée de Noël, une idée très particulière, l'idée incluant la possibilité d'une conception virginale de Jésus. Ce texte et quelques autres textes du prophète Ésaïe constituent l'arrière-plan de la scène de Noël. Cette fameuse personne qui va donner naissance à un enfant qui sera appelé Emmanuel. Et puis d'autres textes encore, justement le peuple qui marche dans les ténèbres, qui voit une grande lumière. Et puis à nouveau, l'annonce de la naissance d'un enfant. L'autre intérêt est que ces textes qui disent Noël un peu en avance, sont inscrits dans un contexte qui est quand même assez chargé. Et ce qui est intéressant, c'est que les textes bibliques ne font pas la passe sur ce climat assez épouvantable. En ce sens, et sous la forme d'un petit clin d'œil, nous pourrions dire que la rédaction du journal Réforme s'inscrit dans cette veine qui ne cherche pas à masquer toutes les difficultés que notre monde connaît aujourd'hui encore. On pourrait en dire aussi au temps de la rédaction France 2. Ces deux aspects me semblent tout à fait appropriés pour essayer de redonner à Noël sa véritable teneur, son véritable message, qui est bien autre chose que ce que j'appellerais volontiers une sorte de mièvrerie. Observons ce matin ce que ce texte peut dire, peut nous dire, de sorte que chacun puisse ensuite mieux en profiter pour donner personnellement du sens à ce que Noël pourrait signifier pour lui cette année. Tout d'abord, je reviens sur cette histoire de climat social. Je trouve ce texte extrêmement rassurant. Il n'est pas seulement rassurant parce qu'on se dit que ce texte annonce le Messie qui doit venir nous sauver. D'autant qu'en fait, ce texte ne parle pas du tout de Messie. Ni de Messie au sens général, ni de Messie au sens particulier qui serait le Christ Jésus. En fait, ce texte n'a pas été écrit par quelqu'un qui se disait que Jésus allait naître et que tout allait être arrangé une fois qu'il serait né. D'ailleurs, ce texte ne finit pas comme on le pense souvent en confondant avec l'autre chapitre du prophète Ésaïe dont je vous parlais, au chapitre 11, où il est question que l'agneau couche avec le loup. Ce texte finit sur une sorte de désolation. Le pays qui menace le royaume de Juda va être lui-même attaqué et anéanti. Autant dire que ce n'est pas du tout la féerie de Noël. Nous sommes très loin de la crèche, du bœuf, de la meubrie, des trois rois mages, qui sont autant d'éléments qui ont été ajoutés au fil des siècles pour constituer ce caractère féerique. Ce texte est rassurant de mon point de vue parce qu'il nous rappelle qu'il n'y a pas et qu'il n'y a jamais eu d'âge d'or. Il n'y a jamais eu une sorte de temps béni où le monde aurait été paisible, tranquille, harmonieux, sans problème, sans crise, sans peur et sans reproche. C'était le chaos à l'époque. Un chaos digne de notre 20e siècle. Un chaos peut-être digne d'aujourd'hui, certainement digne d'aujourd'hui, dans bien des régions de notre monde. Faisons un petit retour en arrière. Le royaume du Nord, autour de la capitale Samarie, était bien plus puissant que le royaume du Sud organisé autour de Jérusalem. Nous avons toujours l'idée que Jérusalem était une capitale qui rayonnait. À cette époque, nous sommes au 8e siècle, c'est le royaume du Nord qui s'impose et qui peut faire alliance avec Aram, l'actuelle Syrie. Le royaume du Sud, autrement appelé Juda, a tout à craindre. Jérusalem n'est pas la capitale flamboyante que nous imaginons. Il y a très peu de moyens, très peu d'établissements publics, très peu de moyens militaires. Ce n'est qu'une petite province qui est sous domination assyrienne, le grand empire voisin. Et le royaume de Juda, le royaume du Sud, est bien trop peu important pour qu'on puisse penser à venir le secourir s'il était effectivement menacé. Or, lorsque le royaume du Nord commence à lorgner sur le royaume du Sud pour s'agrandir un peu, eh bien le royaume de Juda est effectivement tout à craindre. Nous sommes donc au 8e siècle, à l'époque du roi Akaz pour le Sud, du roi Retsin pour Aram et du roi Pekash pour Israël. Au temps de David, quand on y songe, c'était encore pire que de nos jours. En tout cas, ce n'était pas mieux. Il n'y a dans la Bible aucun temps béni, même pas le jardin d'Éden. C'était quand même un peu le bazar au jardin d'Éden. Mais vous voyez, c'est rassurant, je trouve, quand nous nous mettons à la portée de nous-mêmes, de notre société, de notre siècle, en nous disant que nous sommes face à une crise majeure qui risque de tous nous emporter, qui en tous les cas ne laissera personne indemne. C'est rassurant parce que ce texte nous tient lieu de mémoire auxiliaire pour nous rappeler que des moments difficiles, voire impossibles, il y en a eu. Et que pour autant, cela n'a pas forcément signé la fin de l'histoire. Il a été possible d'en sortir non seulement vivant, mais pas en trop mauvais état. Il a même été possible de se reconstituer. Et en fait, lorsque nous regardons un peu l'histoire de cette zone géographique, nous pouvons même nous dire qu'il a été possible de reprendre les couleurs et de pouvoir faire mieux que ce qui avait été fait jusque-là. Et l'intérêt de ce texte est là. Dans la promesse d'une issue possible, ou plus précisément, dans la promesse d'un avenir reste possible. Et c'est pour souligner cette vérité qui ne saute pas nécessairement aux yeux. C'est comme si je vous disais que vous allez voir, 2019 va bien se passer. Cela n'a rien d'évident a priori. Mais en fait, ce texte nous dit que l'avenir, ce n'est pas ce qui va arriver. C'est ce que nous allons faire. Ésaïe parle de cet enfant qui va naître et dont le nom signifie Emmanuel, Dieu avec nous. Autre thème qui va donc inspirer les rédacteurs de Noël. Pour que l'enfant naisse, il faut une femme. Et cette femme, Ésaïe précise en hébreu que c'est une âme. Une jeune femme, une jeune fille. Ésaïe n'écrit pas que c'est une bedoula. Il écrit que c'est une âme, une jeune fille. S'il avait écrit que c'était une bedoula, dans ce cas-là, nous aurions su que c'était une vierge. Mais ici, il n'est pas question de virginité. Il est question de jeune femme qui n'est pas encore mariée. Pas de chance, le traducteur qui reprendra ce passage en grec va employer le terme parthénia, qui désigne principalement les vierges, pour qualifier cette jeune femme. Et du coup, les auteurs des évangiles, qui écrivent en grec, et qui utilisent les textes de la traduction grecque de la Bible hébraïque, la fameuse Septante, vont reprendre ce terme parthénia et l'appliquer à Marie, mère de Jésus. Donc, restons calmes sur la supposée parthénogenèse de Jésus, et concentrons-nous plutôt sur ce qu'Ésaïe nous invite à comprendre. que la jeune fille, Anna, celle qui n'est pas encore mariée, ce qui sera d'ailleurs le cas pour Marie, qui est fiancée à Joseph, n'est pas encore mariée. Donc, que cette jeune fille qui n'est pas encore mariée ait un enfant, dans notre France profonde, ça a un nom. C'est faire Pâques avant Rameau. Ou l'épiphanie avant Noël. Et dans ce texte biblique, c'est ce que le rédacteur met en évidence pour exprimer une conviction profonde. Il y a beaucoup à espérer, même dans cette situation de crise. S'il y a de quoi nourrir de grandes inquiétudes fort légitimes, il y a aussi beaucoup à espérer. Il y a beaucoup à attendre et il y a beaucoup à rejeter. Que signifie qu'une jeune femme enfante sans avoir pris le temps de se marier au préalable? Cela signifie qu'elle a sévèrement confiance en l'avenir. Cela signifie qu'elle a confiance dans sa capacité à offrir à l'enfant à naître un cadre qui lui permettra de pouvoir s'épanouir et de jouir de la vie. Aucune mère digne de ce nom ne ferait un enfant si elle pensait que son avenir ne serait pas plus qu'incertain. Ici, il n'est pas question d'entrer dans des stratégies militaires ou politiques. Il n'est pas question de faire un enfant pour faire de la chair à canon contre le royaume du Nord qui s'est coalisé avec l'Arabe. Il n'est pas question de faire un enfant pour gagner la guerre des chiffres et avoir la plus grande population qui permettra d'opérer le fameux grand remplacement. D'ailleurs, la situation est appelée à évoluer avant que l'enfant soit capable de discerner le bien du mal. Ce qui montre bien que l'enfant n'est pas en soi la réponse au problème. Le texte le dit très clairement. L'enfant qui va naître est un signe. Pas rien qu'un signe. Juste un signe. Il n'y a rien à attendre de cet enfant. En revanche, la naissance de cet enfant dit beaucoup. Elle est extrêmement symbolique. Elle renvoie à plus grand que cet enfant. Ce n'est pas une arme de guerre. Ce n'est pas un instrument politique. C'est un signe qui renvoie à une autre réalité que lui-même. La jeune femme qui met au monde l'enfant l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Et ça, c'est le signe qu'il y a encore de la place pour changer le monde. Il y a encore de la place pour changer le cours des événements. Il y a de la place pour inverser la vapeur, pour orienter les énergies et les sentiments vers des objectifs plus vivables, plus humanistes, pour le dire avec un léger anachronisme. C'est comme le prophète Jérémie, qui, quelques siècles plus tard, est lui-même à Jérusalem, assiégé cette fois par Babylone. Et que fait Jérémie? Il achète un chant. C'est un geste, c'est une action qui indique l'intuition que le cours des choses pourrait être autrement que naturel. Naturellement, tout se dégrade. Si on laisse faire la nature, tout s'abîme. Si on n'entretient pas ce temple, il finira comme cette chapelle, en pire. Ici, dans ce texte précisément, il y a du surnaturel. Non pas au niveau physiologique de la femme, mais au niveau de sa spiritualité. Une spiritualité qui lui permet d'intuitionner autre chose que le cours naturel des choses. Elle ne se résigne pas à la fatalité à laquelle tout le monde s'est d'ores et déjà résigné, à commencer par le roi de Juda. Voilà ce qui est remarquable dans cet épisode biblique. Voir au-delà des apparences, ne pas être épouvanté par les images qui frappent l'imagination, par les slogans qui frappent l'intelligence. Voir au-delà de ces peurs, voir au-delà des menaces, voir ou plus exactement ressentir les changements possibles, ressentir les possibilités qui existent, ressentir ce qu'il est possible d'essayer pour que l'histoire ne s'arrête pas trop tôt, repérer les frémissements, repérer les failles par lesquelles il est possible de traverser tout ce qui nous empêche de pouvoir mener une vie en toute liberté. Ici, il n'est pas question de prédiction qui annoncerait la suite de l'histoire. En plus, vous savez, ce texte a été écrit bien après les événements. Et les rédacteurs bibliques ne se sont jamais vraiment embarrassés avec l'histoire telle qu'elle s'était déroulée. Ils ont régulièrement tordu l'histoire pour la faire entrer dans leur catégorie, pour la faire converger avec ce qu'ils voulaient expliquer sur le plan théologique. Un siècle plus tôt, les rédacteurs bibliques dans le livre des Rois avaient fait subir au roi Ahaz ce que le roi Jéhu, en fait, avait enduré auprès du roi d'Assyrie. Il suffit pour cela de regarder le fameux obélisque noir de Salmanazar III, visible au British Museum. On n'a pas tout au musée Fabre. Les rédacteurs bibliques ne se sont jamais embarrassés avec l'histoire, parce que ce n'était pas leur problème. Ce texte est la révélation et qu'il est possible à tout un chacun de découvrir ce qui est et ce qui peut être. Non pas simplement s'en tenir aux apparences, non pas avoir seulement un cliché d'une société qui est toujours en évolution et qui, par certains aspects, reparcourt des cycles que chaque société a déjà vécu. Mais en y injectant une touche personnelle, en y injectant du génie propre, en y injectant des configurations qui jusque-là n'existaient pas. Ce texte est la révélation qui est possible à tout un chacun de voir le monde autrement qu'à travers le prisme de la superficialité. Voir le monde tel qu'il est et tel qu'il peut être. Chacun peut être libéré des réalités malencontreuses construites sur les peurs, sur des idées reçues, sur la parole du dernier qui a causé, sur les effets de mode. Pour le dire en termes philosophiques, chacun peut accéder au réel. Non pas à ce qui est construit, mais à ce qui est le réel. C'est cela le sacerdoce universel des croyants. Être prêtre, le fait que nous soyons tous prêtres, ce n'est pas un truc religieux. C'est le fait que nous avons la capacité, chacun, de faire face au réel. De nous inspirer suffisamment pour comprendre ce qui se passe, sans avoir besoin de nous fier au jugement d'autrui. Nous avons la capacité de forger notre propre jugement. Voilà le sens des Lumières. Voilà le sens de ce passage biblique qui nous dit que cette jeune femme fait face au réel et qu'elle en tire des conséquences pour elle-même. Chacun est capable de débusquer la vie véritable et de lui dire oui, un oui profond. Un oui de tout son être. Et ici, le texte biblique ajoute quelque chose de supplémentaire. C'est un oui qu'il est urgent de prononcer. C'est un oui sans délai, sans passer par la case mariage pour reprendre ce texte. Il y a une urgence à vivre. Il y a une urgence à adhérer à toute puissance de vie qui se présente. Il y a urgence à adhérer à tout ce qui permettra de repousser un peu plus loin l'obscurantisme, la brutalité, l'épouvante et de façon générale tous les rapports de force. Ici, Nous ne sommes pas dans un rapport de force qui permettrait de régler la crise. Et pourtant, la crise est vraiment spectaculaire. Elle n'a rien à voir avec ce que nous connaissons ici de nos jours. Il y a une urgence à ne pas fatiguer l'Éternel avec nos atermoiements, dit le texte. C'est une phrase assez sympathique, je trouve. Arrêtez de grincher. Arrêtez de s'apitoyer. Retroussez les manches et égalez. Et c'est ça aussi la prière. Le professeur Morandel Newman le disait dans une formule assez savoureuse, prier c'est se retrousser les manches. En tous les cas, ce n'est pas se croiser les doigts. Encore moins bien. Il y a une urgence à ne pas fatiguer la vie avec nos résignations, avec nos renoncements, avec nos hésitations, nos véritables fausses pudeurs qui n'ont aucun effet bénéfique et qui lassent la patience de nos amis et qui lassent Dieu lui-même. Manière de dire que nous en arrivons même à user ce qui a pourtant un caractère sacré. Il peut nous arriver d'user la liberté. Il peut nous arriver d'user la fraternité. L'égalité, elle, ça fait bien longtemps qu'elle est usée jusqu'à la trogne. Les amis, je vous dis que la réponse au problème ne sera pas militaire. Elle ne sera pas violente. Elle ne sera pas dans un exercice dur du pouvoir ou du contre-pouvoir. La réponse des amis s'inscrit dans tout ce qui, de près ou de loin, aura un rapport avec ce qui ajoute de la vie à la vie. Dieu est avec nous. Et cela nous encourage à vivre. Presque comme si de rien n'était. Presque comme s'il n'y avait pas de problème. En tous les cas, notre vie ne trouve pas son centre de gravité dans les problèmes, mais dans tout ce qui concourt à faire grandir la vie. Notre vie n'est pas impactée par notre environnement au point que nous nous alignerions sur notre environnement. Nous sommes là au contraire, comme un point de repère, pour essayer de redonner au centre de gravité sa juste place. De pouvoir redonner quelques inflexions qui vont dans le sens d'une vie plus juste, plus jouissive. La réponse des amis et de faire valoir ce qu'on est profondément, et non pas ce que d'autres veulent faire de nous, et de le faire valoir pleinement. Le salut passe ici par la fin des rôles de composition, par la fin des figures imposées. Il est hors de question de se renier. Il est hors de question d'abandonner quoi que ce soit de fondamental pour nous. Pour transposer cela à notre temps, nous pouvons dire par exemple, dans la perspective biblique, qu'il est hors de question de céder quoi que ce soit sur l'état de droit, de créer des justices d'exception, de renier notre humanité en changeant soudainement d'anthropologie, au prétexte que nous serions inquiets, que nous nous sentirions menacés, que ça ne va pas très fort ces temps-ci. Dieu avec nous. Comme il était avec le peuple hébreu perdu dans le désert du Sinaï, ce peuple qui ne savait plus trop où aller. Dieu avec nous. C'est la colonne de nuée le jour. C'est la colonne de feu la nuit qui indique qu'il y a un horizon encore disponible quand il nous semble qu'il n'y a plus grand-chose à espérer. Que nous sommes peut-être arrivés au bout de notre vie, au bout de notre histoire. Dieu avec nous, voilà le signe qui indique qu'il y a encore un horizon disponible. Un horizon vers lequel orienter notre regard, un horizon vers lequel tendre, un horizon vers lequel esquisser quelques premiers pas. Laissons les mouches s'occuper d'elles-mêmes. Et laissons les mouches s'occuper de ceux qui n'aiment pas autre chose que de charrier les déchets de l'histoire. Et nous, tendons vers cet horizon qu'indique ce signe. Se laisser enfanter par cette folle espérance sur laquelle la foi toujours nous ouvre les yeux, et sauver ainsi le monde de la désolation, lui redonner le sens de ce qui mène irrésistiblement à l'existence.